CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, au cœur de la musique.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool, j'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9 heures.
CIBL. 101.5.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le lundi 11 mars et ici Charline Caro, votre animatrice, pour vous accompagner dans ce retour à la neige. Et aujourd'hui, on reçoit la directrice générale d'Oxfam Québec pour revenir sur la Journée internationale des droits des femmes, suivie de nos chroniqueurs avec Thibaut Varin pour l'humour et Élise Dagenais pour les outils de paix. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, l'équipe de la mairesse Valérie Plante a commandé un sondage pour savoir la popularité de certaines personnalités politiques montréalaises en vue des prochaines élections municipales. Parmi elles figurent Mélanie Joly, Dominique Anglade ou encore Denis Coderre. Le sondage a également évalué le niveau de satisfaction du public vis-à-vis de l'action de l'administration Plante. Et ensuite, plus de 2300 nids de poules ont été signalés depuis le début de l'année 2024, un record depuis 2019. Mais depuis la semaine dernière, les conditions météorologiques favorables ont permis la reprise des colmatages selon les responsables municipaux. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Béatrice Vaugrand, directrice générale d'Oxfam Québec. Je reçois ce matin Béatrice Vaugrand, directrice générale d'Oxfam Québec, pour revenir sur la Journée internationale des droits des femmes. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Le 8 mars dernier, donc, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Pourquoi ce nom tout d'abord et pourquoi pas un autre comme on peut les voir de temps en temps?
Oui, donc le nom officiel selon l'ONU, c'est la Journée internationale des femmes. Mais au Québec, et tant mieux, on appelle cette journée-là la Journée internationale des droits des femmes. J'en suis très, très fière parce que je pense que ça commence déjà par leurs droits, les connaître et puis surtout les rendre accessibles. Alors tant mieux qu'on ait adopté ce nom-là. Il paraît qu'en France, on l'adopte aussi, ce qui serait assez étonnant puisqu'on dit toujours Journée internationale des droits de l'homme. Mais l'ONU Femmes aussi, donc un organe de l'ONU qui a adopté ce nom-là. Mais tant mieux si elle existe. Elle existe déjà depuis 1857. Je pense.
Et Journée de la femme, c'est exclu aussi, c'est pas pertinent.
La femme, ça me fait mal.
Le mandat d'Oxfam Québec, c'est de combattre les inégalités. Est-ce que vous pourriez, puisque c'est l'occasion, nous faire un petit tour d'horizon des inégalités vécues par les femmes dans le monde?
Oui, malheureusement. Et puis, je commence toujours par dire que je préfère être une femme, évidemment, aujourd'hui qu'il y a 30 ans, il y a 50 ans, etc. On voit des progrès qui sont quand même substantiels dans certains pays par les lois et les pratiques. Donc, on se réjouit de ça, mais ça se fait à chaude lutte. Ça, c'est pas garanti. Et c'est surtout des organisations de femmes très organisées qui les obtiennent. Mais aujourd'hui, on peut faire le constat toujours qu'une femme sur trois va encore subir de la violence, qu'elles sont donc déjà beaucoup plus sujettes aux violences. Et je nommerai les discriminations envers les femmes par deux thèmes en fait qui sont souvent le lien sur lequel on travaille chez nous au CSAC même. Donc tout d'abord la participation démocratique ou le manque de participation aux décisions. Donc elles font 24% des parlementaires dans le monde seulement. 24% seulement. 5% des maires dans le monde sont des femmes. Donc on le sait, chez nous, on voit une certaine parité dans les sphères, je dirais, politiques, mais les sphères économiques, les sphères juridiques sont beaucoup moins équitables et en manque de participation des femmes. Donc là, notre motto chez Oxfam, c'est de dire qu'il faut que les femmes soient aux tables de discussion et aux tables de décision, et même qu'elles les remettent en cause, ces tables-là, pas juste s'adapter à un système qui a été souvent construit avant même qu'elles participent aux tables de décision, mais il faut vraiment qu'elles soient avec les hommes aux tables de décision. Il y a aussi des inégalités, bien sûr, économiques. Elles font un nombre d'heures invisibles, donc les heures de travail domestique, de soins, etc., qui sont évaluées à 10 800 milliards de dollars. Si on comptait ça dans notre PIB, on dépasserait trois fois le secteur des technologies dans le monde. Donc, ce 90 cents aussi par rapport au Québec, pour un dollar fait chez les hommes, c'est 90 cents au Québec, mais dans le monde, c'est 24% en moins du salaire salaire horaire. Donc des réglementations économiques aussi, puis beaucoup de femmes qui produisent dans le monde ce qu'on mange, mais malheureusement qui sont pas, elles ne sont pas propriétaires des terres. Seulement 20% d'entre elles ont la propriété des terres. Donc c'est inégalités économiques aussi qui contribuent encore une fois aux inégalités envers les femmes. Les déréglementations climatiques aussi. Le climat et les changements climatiques affectent particulièrement les femmes parce qu'elles ont peu de moyens pour pouvoir s'adapter au climat. Comme je vous le disais, elles travaillent la terre, mais elles n'ont pas les prés, elles n'ont pas les équipements, elles ne sont pas propriétaires. Donc, inondations, sécheresses, etc., elles sont beaucoup moins équipées pour pouvoir faire face au changement climatique. Et l'ONU disait que 80% des personnes qui sont obligées de bouger à cause des changements climatiques sont des femmes et des filles.
On comprend que ces inégalités sont multifactorielles. Au Canada, au Québec, comment ça se passe? Quelles sont les inégalités qui persistent ici?
Encore une fois, les heures domestiques, les heures de travail à la maison, de soins, etc., sont aussi...
On retrouve les mêmes problématiques,
malheureusement. Donc, on sait que 48% de les femmes font 48% plus d'heures de travail, de soins domestiques et de soins des enfants.
Non rémunérés.
Non rémunérés, évidemment, bien sûr, parce qu'on aime tellement ça qu'on fait ça. On fait ça par cœur et on se donne à la tâche. Et on a parlé au... Et je suis contente de voir que ça, quand même, ça se documente de plus en plus, la charge mentale aussi. Donc, ce n'est pas juste « est-ce que je peux t'aider ?» Ou là, il y a un réflexe quand même qui est beaucoup plus développé. Je pense dans les couples, il y a un meilleur partage. C'est croissant, c'est clair qu'il y a une bonne tendance. Mais on ne peut pas attendre les tendances. On va encore passer une centaine d'années à avoir une meilleure régulation. Même pour les salaires, donc 10 cents de moins à l'heure pour un dollar, c'est encore une fois les femmes qui les subissent. Et pour les violences sexuelles, 85% des violences sexuelles, harcèlement, violences sexuelles, sont vécues par les femmes.
Et en attendant ces centaines d'années, cette année, vous vous êtes engagée avec Oxfam pour un cessez-le-feu à Gaza, par exemple, pour la taxation des plus riches ou encore pour la lutte contre les changements climatiques. On peut se demander quel est le rapport entre ces événements et les droits des femmes. Et justement, quel est le point de convergence à tous ces phénomènes que vous tentez d'enrayer?
Oui, merci beaucoup. Ça me donne une occasion de réexpliquer notre ligne rouge et notre ligne directrice à nous. Clairement, on travaille sur la justice climatique, la justice économique avec la justice de genre. Et à tous ces trois champs-là sont croisés. Et c'est vraiment le leadership transformateur des femmes qui les mène. Donc, on a trois champs d'action, justice économique, justice climatique, justice de genre, à travers vraiment dans tous ces domaines-là le pouvoir transformateur des femmes. Et on a trois méthodes d'action, donc l'humanitaire, les projets de développement à long terme à l'international et les projets aussi de plaidoyer et d'influence au Québec et au Canada, parce qu'on veut s'attaquer aux sources causes et pas juste réparer. Donc on est à Gaza parce qu'on est clairement dans l'humanitaire et on cherche urgemment et par tous les moyens d'avoir un cessez-le-feu permanent. Mais on va travailler aussi quand on travaille par exemple à Gaza où on est depuis 1989, on travaille sur les droits sexuels et reproductifs des femmes par exemple à Gaza, sur le pouvoir économique des pêcheurs, des agriculteurs aussi qui subissent un blocus depuis 16 ans. Donc ça c'est des projets de développement sur le long terme aussi.
Sur ces différents volets d'action, vous intervenez sur le géopolitique, sur l'économique, sur le côté environnemental. Est-ce que vous voyez cette exposition des femmes et des filles au premier rang? Est-ce que vous constatez que les droits des femmes sont les premiers à être touchés lorsqu'il y a un conflit, une crise climatique?
Clairement. Puis c'est pour ça que c'est urgent d'avoir encore une fois un agenda féministe. Et n'ayons pas peur de ce mot F, parce qu'on sait qu'en cas de chaos, et il y a de plus en plus de chaos, qu'il soit politique, climatique, démocratique, ce sont souvent les femmes les premières exposées en violence directement sur leur corps, violence sexuelle et directement aussi sur plus de pauvreté. Les changements climatiques mettent plus de gens à la rue, mettent plus de gens sur les routes et la majorité des personnes pauvres sur Terre sont des femmes. Donc oui, il y a clairement des femmes qui sont affectées. Sachant que leur autonomie corporelle, à savoir décider du nombre d'enfants qu'elles veulent faire, si elles veulent en faire, quelle est leur liberté sexuelle et reproductive, est loin d'être acquis dans le monde, et que leur autonomie économique aussi n'est pas garantie. Il faut qu'elles aillent, souvent elles sont dépendantes de d'autres revenus, du foyer, de l'époux ou autre, pour pouvoir survivre. Alors l'autonomie corporelle, l'autonomie économique sont deux enjeux importants pour pouvoir leur permettre d'être aux tables de discussion et aux tables de décision.
Le travail pour réduire ces inégalités semble complexe et parsemé de beaucoup d'obstacles. L'approche d'Oxfam Québec, c'est de s'attaquer aux causes profondes de ces inégalités et non pas aux symptômes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit?
Ça se traduit par des projets où on essaye d'engager les gens à s'occuper de domaines où parfois on dit non, ça c'est pas mon expertise. Mais au contraire, je nommerais par exemple l'économie et la finance. On sait très bien qu'on a un système économique qui n'est pas fait pour les femmes, qui n'a pas été construit pour les femmes, et donc il faut qu'on s'occupe d'économie, d'économie dite durable ou autre, mais il y a maintenant de plus en plus d'alternatives au système économique dominant qui n'est pas bon pour la planète, mais n'est pas bon aussi pour les personnes, elle laisse trop de gens sur les côtés. Donc Oxfam, on a développé l'économie du beigne qui permet d'avoir un système économique où on dit on ne peut pas dépasser plus, on ne peut pas avoir une économie qui dépense plus que les ressources qu'on a sur Terre, et on ne peut pas aller en dessous de normes de droits humains fondamentales. Donc, au sein de ce beigne-là, le plafond et le plancher, on a différents thèmes économiques qu'on veut discuter, mais il y a d'autres alternatives que de discuter maintenant sur la décroissance, sur l'économie circulaire, etc. Il faut s'en occuper. On parle aussi de finances. On parle beaucoup de finances durables à Montréal. Tant mieux si les financiers commencent à parler de finances durables et à s'en occuper, que ce soit pour des raisons purement économiques, financières ou autres, mais ils s'en occupent. Mais par contre, ce que je leur dis, c'est que vous ne pouvez pas faire ça sans la société civile. Invitez-nous et laissez-vous vous déranger. Comme nous, on va se laisser déranger aussi. On va mieux connaître votre monde, mais vous allez connaître le nôtre. Donc, occupons-nous de l'économie et de la finance, par exemple.
Le point de convergence entre ces actions, c'est l'approche transformatrice et des changements systémiques. Au-delà des individus, vous voulez vraiment bouleverser l'ordre établi. On le voit avec les actions que vous cherchez à mettre en place, mais vous voulez vraiment changer le système de l'intérieur.
Oui, je pense qu'en ce moment, on est prêt maintenant à concevoir, de dire finalement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec le système actuel. Il faut le système financier actuel en ce moment est trop générateur d'inégalités envers les femmes et de toutes les personnes migrantes, les personnes autochtones, etc. C'est clair qu'il y en a trop qui sont laissées sur le bord de la route. Alors on parle aux féministes hommes et à ceux qui sont sur le point aussi de s'interroger sur ce système-là en disant, vous savez, quand les femmes sont à la table de discussion, c'est bon pour elles, mais c'est bon aussi pour la société. On l'a vu dans nos projets de développement.
Et en effet, vous avez mis de l'avant avec Oxfam le leadership des femmes le 8 mars dernier, en prônant la nécessité de leur présence aux tables de décision. Quel est l'impact d'une gouvernance féminine? Est-ce que ça change réellement les choses qu'il y ait des femmes qui participent à la décision générale?
Oui, on le voit dans notre travail, même humanitaire, quand on était en Irak et qu'on travaille sur les processus de paix, on le sait que statistiquement, quand les femmes participent aux processus de paix, les processus de paix sont beaucoup plus durables. On espère que quand on sera à un moment donné à Gaza et dans un processus de paix, on veut absolument que les femmes soient dès la journée 1 de discussion de processus de paix, qu'elles soient aux tables de discussion. Il y a des angles que les hommes ne peuvent pas voir, c'est normal. Donc il faut absolument qu'on puisse les avoir à la table de discussion, mais pas juste inclure. Vous savez, il y a même... Est-ce qu'on peut redessiner la table? Il manque des choses, il manque des gens, il manque des thèmes. Et donner les moyens vraiment aussi aux femmes. On parle de nourriture et de personnes de santé et sécurité alimentaire dans le monde. Quand les femmes ont les moyens, les prêts, les outils, je l'ai vu au Ghana, elles peuvent nourrir leur famille, les enfants vont mieux, ils vont à l'université, il y a moins de violence à la maison, il y a plus de revenus. Les effets sont incroyables sur la communauté quand les femmes sont au table de décision. C'est pareil pour la planète.
Même si les problèmes dont on parle sont systémiques, on parle de 4 600 milliards d'heures de travail non payées chaque année, d'une femme sur trois, vous le disiez, victime de violence au cours de sa vie, on voit quand même que ce sont des variables ancrées. Comment on fait pour enrayer des variables aussi rigides, malgré le fait qu'il y ait des femmes aux tables de décision? Est-ce que c'est possible?
Oui, c'est possible. Moi, je fais partie des pelleteux de nuages qui, à chaque fois qu'elle me dit, à un moment donné, avoir le droit de vote des femmes, il y en a peu qui y croyaient, puis on l'a eu, donc il faut toujours... Il y a des organismes de femmes, d'ailleurs, qu'on soutient dans un projet sur Voix Leadership des femmes, des organismes de femmes qui sont absolument incroyables, qui prennent des risques énormes parce que l'état civil, malheureusement, se restreint de plus en plus dans beaucoup de pays. Donc, il faut les encourager. Puis, on le voit juste au sud, chez nous, les attaques envers les droits des femmes sont toujours une tendance très négative pour les femmes et en général pour la société. On a des projets très concrets où on travaille avec les jeunes au Québec. On peut On est avec eux sur 4000 jeunes au Québec parlent. On a de féminisme et de droits des femmes. Mais c'est eux qui nous nourrissent. Hein. C'est pas nous qui leur imposons un agenda, quoi que ce soit. On a créé ensemble un guide de survie au souper de famille sur le féminisme. Allez le télécharger. Vous allez voir, on peut avoir une discussion avec l'oncle qui n'a pas toujours tout compris. Puis c'est normal aussi que pour les personnes plus âgées ou autres, il y a des cheminements et des chemins à faire. Et parlons-nous, surtout parlons-nous. On est pour le dialogue, beaucoup, beaucoup. On ne piédinera pas sur nos principes, mais on est beaucoup pour le dialogue. D'où travailler avec des entreprises, travailler avec la finance, le faire d'une manière tout à fait honnête et ouverte en disant « Vous ne pouvez pas vous passer de la moitié des voix sur Terre. On manque tellement de choses et pour elles et pour le reste de la planète. » Mais pour qu'elles soient au tas de discussion, il ne faut pas qu'elles passent des heures et des heures à faire du travail non payé. Mmh. Il ne faut pas qu'elles passent des heures ou des heures à s'occuper de 10 enfants qu'elles n'ont peut-être pas voulu ou de mourir parce que juste leurs droits sexuels ou reproductifs n'ont pas été pris en compte. Mourir en accouchant, par exemple. Donc, c'est l'autonomie corporelle et l'autonomie économique est importante pour pouvoir avoir la pleine participation des femmes.
Vous avez commencé à parler de vos actions. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'action que vous faites dans le monde pour les droits des femmes et une que vous faites au Québec?
Oui, c'est toujours très difficile de choisir parmi tous ces projets, mais je vais quand même parler de Voix et Leadership des femmes, un grand projet sur 9 pays et qui couvre 450 000 femmes et, pour pouvoir soutenir et mieux soutenir les organisations de droits des femmes. C'est vraiment par elles que ça porte. Alors, quand elles ont besoin, on entend leurs besoins, on entend ce qu'elles souhaitent et c'est de renforcer leur structure. Parfois, elles sont complètement dans l'informel, évidemment, elles n'ont presque même pas le droit d'exister. Parfois, elles ont le droit d'exister, mais elles ont peu de moyens financiers, gouvernance, de communication, de formation. Donc, selon leurs besoins, on les accompagne. Par exemple, on travaille en Colombie avec les femmes afro-colombiennes, autochtones, rurales, comment elles peuvent mieux s'organiser et mieux se faire entendre. Donc ça, c'est des projets très concrets.
Qui se passe sur plusieurs territoires.
Sur plusieurs territoires, oui, oui, tout à fait. Donc maintenant, en Colombie, on est en Irak, on est en Jordanie, en République démocratique du Congo. J'étais au Ghana il n'y a pas très longtemps et on a aidé des groupes de femmes sur instaurer par exemple des lignes de communication sur mieux connaître nos droits reproductifs. Donc, mais c'est elles qui dictent. On travaille toujours avec des organisations locales. C'est en aucune façon un agenda mondial d'Oxfam. Ça part toujours du terrain. Au Québec, on fait beaucoup de choses, bien sûr, que ça se parle de sensibilisation ou d'éducation. Je nommerai le travail sur la finance durable que je vous disais. On a fait un excellent rapport sur la pollution ou les émissions de gaz à effet de serre émises par les 8 grandes banques canadiennes pour dire mais comment ça se fait que vous ne nous donnez pas suffisamment d'informations sur pas seulement vos émissions de gaz à effet de serre par vos opérations, mais par vos prêts, par vos investissements. Il faut absolument qu'on ait une information sur ce que ça émet, en quoi ça peut contribuer aux émissions de gaz à effet de serre et donc au changement climatique. On sait que ce n'est pas parfait. Donnez-nous aussi un plan d'action vraiment concret, détaillé, etc. Et quand on cumule l'ensemble des informations, là, on est à 8 fois le niveau de pollution du Canada entier. Donc, ce rapport-là a été vraiment extrêmement important. On a pu avoir certains dialogues avec certaines banques, d'autres non. Et on continue, on s'est fait connaître donc par cette recherche-là sérieuse et par notre ouverture aussi à être tel en disant « Hey, les financiers, vous ne pouvez pas continuer à faire de la finance durable qui soit juste un exercice de compliance. Tic, 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 OK, on a coché les bonnes affaires. Il faut vraiment qu'il y ait une perspective féministe et de la société civile pour que vous soyez vraiment de la finance durable. Donc, on travaille entre autres aussi sur ce sujet-là.
Je vois qu'il y a un beau programme chez Oxfam. Merci de nous avoir donné quelques pistes. Finalement, quel est le pouvoir d'une journée comme le 8 mars?
Ça remet encore une fois, le sujet des droits des femmes. Et encore une fois, très contente que le Québec ait adopté cette nomination-là. C'est le fait qu'on a fait beaucoup de chemin pour pouvoir parler à un plus grand public. Oui, on a fait beaucoup de chemin. Il y a quand même encore la perception de dire, c'est bien, les femmes, là, ça y est, vous l'avez, votre égalité. Il n'y a aucun pays sur Terre qui assure l'égalité hommes-femmes, et malheureusement, même chez nous aussi. Donc, il faut continuer à travailler et à soutenir vraiment les voix féministes et les organisations de femmes. Alors, engagez-vous, soutenez-les par un don, les organisations autour de vous, dans votre quartier, au Québec, au Canada, impliquez-vous, signez notre manifeste. On a un manifeste, encore une fois, pour clamer votre engagement auprès des droits des femmes. Le petit guide de survie, faites-le, mais chaque geste compte. Mais c'est important que... Et je suis contente qu'on soit invité le 11 mars, parce que c'est pas juste le 8, c'est tous les jours sur lesquels il faut
bonne journée du 11 mars, alors.
Voilà, exactement.
Est-ce que vous observez particulièrement un impact important le 8 mars? Est-ce que vous voyez que ça contribue, cette journée, à changer les mentalités, à sensibiliser un peu plus que le reste de l'année à la cause des droits des femmes?
Oui, parce que sur les médias sociaux, dans les médias traditionnels aussi, il y a beaucoup de communication, encore une fois, des bonnes recherches. Et bien sûr, il faut choisir ses sources, mais des bonnes recherches qui sont encore là pour mettre des faits et surtout engager les gens. Je crois que n'ayons vraiment pas peur du mot féministe. Le mot féminisme englobe la pluralité des femmes et surtout c'est une façon de fonctionner. Donc ce jour-là, on est capable de dire, vous savez, quand il y a une approche vraiment féministe, ça veut dire qu'on partage le pouvoir. Les hommes n'auront pas moins de droits, au contraire. Ils auront plus peut-être d'accès à leurs droits parce que quand on travaille avec les femmes, ça bénéficie à tout le monde. Ils auront peut-être certainement beaucoup moins de privilèges. Mais c'est en aucun cas contre, c'est pas une guerre contre les hommes, c'est vraiment pour une meilleure société. Donc ce jour-là, on parle de féminisme et de dire plus de transparence, plus de revabilité, une approche où ceux qui sont généralement les groupes les moins considérés sont entendus. Donc parlons-en.
Vous œuvrez depuis bientôt 20 ans dans le milieu des ONG, à Amnesty International, puis à Oxfam Québec. Des 8 mars engagés, vous en avez donc connu pas mal. Quelles évolutions vous remarquez, tant au niveau du contexte, tout d'abord, et puis au niveau de l'engagement que vous observez chaque 8 mars?
Je pense qu'on a fait quand même pas mal d'évolutions en termes de violences sexuelles et de harcèlement sexuel. La vague MeToo a vraiment... Je veux dire, même chez nous maintenant, notre système juridique s'est accommodé un peu mieux de comment entendre vraiment et écouter et croire la voix des femmes. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une évolution fondamentale. Je vois les jeunes avec qui on travaille. On a des jeunes féministes vraiment qui ont un autre féminisme. Et je le vois aussi par rapport à tout ce qui a été... Je suis très fière de ce qu'a fait le Québec dans les années 70-80. Je trouve qu'on a bâti une société qui est vraiment beaucoup plus ouverte sur les enjeux de droits des femmes. Maintenant, on a aussi d'autres féminismes au pluriel qui se déploient, un féminisme, donc comme on appelle intersectionnel, avec d'autres voix qui viennent de populations racisées, de groupes racisés et autres qu'il faut entendre aussi, souvent qui étaient mis de côté, mais maintenant elles sont là et elles prennent leur voix. Et puis les vagues EDI, donc équité, diversité, inclusion dans les institutions, dans les entreprises, mettent quand même un angle aussi sur les femmes en disant, mais elles sont où au pouvoir? Ah, elles sont pas là, elles sont pas dans les conseils d'administration. Et ça met en exergue, vous savez, la taxe maternelle, j'en ai pas parlé, mais le fait que dans les entreprises ou dans le système économique actuel, le fait d'avoir des enfants vous amène de facto 20% en moins de salaire que les pères et 20% en moins de salaire que les femmes sans enfants. Oh, diantre, mais les femmes accouchent. Waouh, quelle nouvelle! Donc, on est capable maintenant de nommer, de documenter ce genre d'inéquité-là qui est bâti par le système économique. Comment ça se fait? Parce que j'ai mis au monde un, deux ou trois enfants que je dois payer ça toute ma vie économiquement. Les enfants, c'est bon pour toute la société. L'accès à la formation, le plus de justice pour les harcèlements sexuels, je veux dire, on s'est tellement on a tellement subi les violences sexuelles pendant des centaines d'années que là, maintenant, il y a une craque qui nous permet d'en parler. C'est incroyable quand même, cette avancée-là. Alors, c'est loin d'être évidemment réglé, mais c'est quand même...
Il y a d'espoir.
Oui, tout à fait.
On se retrouvera alors le 8 mars prochain pour faire un petit constat de ce qui s'est passé en un an. Merci beaucoup, Béatrice, d'être passée à notre micro. On peut retrouver toutes les infos sur oxfam.qc.ca. On peut retrouver votre manifeste dont vous nous parliez, qu'on peut aller signer, c'est ça?
Oui, tout à fait. Merci énormément de l'invitation.
Merci, Béatrice, et puis à bientôt.
À bientôt.
On continue avec la chronique de notre humoriste Thibaut Varin.
Les métiers des arts et de la culture, il y en a une foule. Ça demande des gens de talent qui créent, innovent et soulèvent la fierté. Ça fait des vies remplies d'imprévus, des journées qui suivent sans se ressembler, des avenirs hauts en couleur. De la gérance à l'enseignement, de la gestion au numérique, quel que soit ton engouement, tu vas trouver le métier qui va te passionner. Pour découvrir des gens et des carrières hors de l'ordinaire, visite cultureetmoi.ca. Culture et moi, des métiers de sens et de passion. Un message du gouvernement du Québec.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour La Cabane à Contes, l'émission où on vous raconte des histoires.
Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Traits d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis à l'émission Traits d'Union à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
CIBL 101,5 Montréal.
On est de retour sur CIBL. Avant la promo, on écoutait Femme Lady de Bibi Club. Et puis, c'est au tour de notre chroniqueur humoriste Thibaut Varin de nous parler d'un sujet d'actu. Bonjour Thibaut.
Salut Charlène.
Et alors, quelles sont les actus du jour?
Moi, aujourd'hui, je parle du changement d'heure. Hein? Je parle de la France et je parle de la journée du 8 mars dernier hein, qui célébrait la Journée internationale des droits des femmes. Donc, c'est parti. Donc, c'est ça. Pour ma chronique, j'ai utilisé le plus aiguisé de mes économes pour éplucher les nouvelles et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de sujets hein, quand même cette dernière semaine. Dans un premier temps, on a le pas trop fameux passage à l'heure avancée.
Le hein. sujet le plus important, je
vais te dire. Oui, ce moment de l'année où on se réveille mêlé comme un jeu de cartes à se demander sur quelle planète on vit. D'ailleurs, je ne sais pas pour toi comment se passe le changement d'heure.
Ça pique.
Ouais, hein? Ouais. Ouais, ouais. Perso, ce matin, moi, je me suis réveillé en 1830, j'avais 7 enfants.
Exactement.
Donc, complètement perdu. Et là, pour la petite histoire, parce que je me suis quand même renseigné, le changement d'heure date, tiens-toi bien, du choc pétrolier de 1974 et de l'envolée des prix du pétrole après qu'on voulait réaliser des économies d'énergie. Puis l'idée, c'était d'économiser l'électricité produite par le fuel en ayant une heure de vitamine D de plus le soir. Fast forward à aujourd'hui, on est rendu avec des salons de bronzage, donc plus besoin de soleil. L'été, je laisse mon frigo ouvert pour refroidir mon appart, tellement on sauve d'énergie grâce aux technologies. Mais le passage à l'heure avancée est toujours là. Mais oui, on se demande pourquoi. Donc, encore une fois, cette année, j'ai dû me...
Ça fait partie de notre patrimoine.
Voilà, c'est ça. Il faut en prendre soin. Et hier encore, j'ai dû me taper l'aller-retour chez mes vieux pour régler l'heure du micro-ondes, du DVD et du nouveau bébé de la famille, le air fryer.
Voilà, très important.
À part ça, dans l'actualité, la France est devenue lundi dernier le premier pays à inscrire explicitement dans sa constitution l'interruption volontaire de grossesse.
Félicitations.
Ben oui, qui l'aurait cru, les Français ne sont pas juste lourds, ils peuvent parfois faire de belles choses.
Et comment tu justifies cette blague?
Et comment je justifie cette blague? Parce que je suis moi-même originaire de la France, donc j'ai le droit de me taper dessus.
Ça va alors.
Et finalement, toujours dans l'actualité, ben, c'est vendredi 8 mars dernier qu'on célébrait la Journée internationale des droits des femmes. Et fun fact, pas si le fun que ça, la Journée internationale des droits des femmes a été créée en 1911, mais n'a été reconnue officiellement qu'en 1975 par les Nations unies. Et là, j'ai fait des petites recherches, puis j'ai pas trouvé la raison, mais selon moi, un quota légèrement mal proportionné entre les hommes et les femmes, début du 20e siècle, doit avoir joué un petit peu
quoique à là-dedans. À la fin du 20e, ça devait pas être tant paritaire que ça.
Ça devait pas. En fait, je pense que ça ne l'est toujours pas, mais il y a clairement des améliorations par rapport à ça. Et là, je suis conscient que c'est un peu particulier et peu commun venant d'un homme blanc privilégié, mais c'est le sujet que je veux aborder aujourd'hui, les inégalités de genre et le féminisme de la perspective d'un homme. Et là, certains d'entre vous sont probablement en train de se dire « Eh là là, tout un défi! Hein? » Mais comment témoigne mon désir d'un jour me faire une écharpe avec mes mousses de nombril? J'aime ça, les défis.
C'est bien.
Ouais. Donc, d'ailleurs, je te tiens au courant par rapport à, par rapport à mon écharpe. Ne t'inquiète pas. Parce que, bon, moi, ça fait maintenant 35 ans que je suis propriétaire d'un cœur aussi sensible qu'une plaie ouverte sur laquelle on échappe de l'absinthe. Et ayant toujours été touché par les enjeux sociaux qui m'entourent, je me suis longtemps questionné autant sur la pertinence de ma voix sur des sujets féministes que sur le comment les aborder. Puis je pense que c'est important de se poser ces questions-là. Et là, sans que ça me dédouane de quoi que ce soit, sachez que ma crainte de mal m'exprimer et mon souhait de bien faire les choses m'ont amené à faire lire ce texte à quelques amies, autant féministes que militantes. Okay? Un chef-d'œuvre, que m'a dit ma nièce de 4 ans.
grande militante.
Tandis qu'une amie m'a dit « Intéressante chronique, tout en douceur, mais trop de fautes d'orthographe. » Bon, merci Jessica.
C'est pas le sujet.
Voilà, c'est ça exactement. Mais en autant que le sujet est bien traité, j'étais satisfait.
C'est validé.
Sachez aussi que j'aurais jamais l'intention de m'auto-proclamer sauveur. Hein, moi qui est d'ailleurs incapable de sauver ne serait-ce que mes légumes du grand voyage frigo-compost à chaque semaine, mais ayant toujours eu ce désir de rendre le monde qui m'entoure meilleur, je me suis dit que si le fait qu'un homme peut traiter avec délicatesse et bienveillance d'un tel sujet et que ça peut résonner chez certains auditeurs, ben tant mieux. Sinon, ben, vous aurez appris que le changement d'heure date des années 70.
C'est déjà ça.
Voilà. Parce que oui, je pense fermement que les hommes avec un petit H, un tout petit H, ont leur rôle à jouer dans la lutte pour une société égalitaire et il faut en parler. Et c'est pour ça que je suis là ce matin. Et après avoir fait pas mal de lectures sur le sujet, j'ai préparé quelques petits points sur lesquels nous, les porteurs de litchi d'entrejambe, pouvons agir. Désolé pour l'image, là, j'avais pas le choix.
Non, c'est bien, c'est délicat comme voilà. Sujet.
Donc, des points sur comment on peut agir pour faire avancer les choses. Prête?
Prête.
C'est parti. Dans un premier temps, n'importe quel homme se disant allié à la cause féministe devrait commencer par prendre conscience de ses privilèges. Puis là, parce que malheureusement, la plupart du temps, un privilège, ben, on ne se rend pas compte que c'en est un. Tu sais, on prend ça pour acquis. Un peu comme on prend pour acquis le soleil qui se réveille d'un bord puis se couche de l'autre. Là. On a tendance à penser que si quelque chose est présent dans notre vie depuis qu'on est tout petit, mais ben, it is what it is. C'est comme ça. Mais comme on dit, il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Donc, que ce soit au niveau de la généralement mauvaise répartition des tâches ménagères, de la surreprésentation des hommes dans les sphères politiques et gouvernementales et de la surreprésentation des hommes dans les médias, on se doit, les hommes, de reconnaître les privilèges qu'on a. Et là, j'ai deux petites questions pour toi, Charline. Primo, trouves-tu que dans ma dernière phrase, le mot surreprésentation était surreprésenté?
De manière justifiée et pertinente.
OK, merci, très intéressant. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus acerbe que ça.
Non, jamais.
Et deuxio, je parlais de la surreprésentation des hommes dans les médias. Par pur hasard, puis je ne t'ai même pas sondé avant, mais es-tu fan de cinéma dans la vie?
Oui.
Oui, quand même, OK. J'imagine que tu as vu ça, mais moi, personnellement, en fait, ça a été relevé sur les réseaux sociaux, mais j'ai trouvé quand même assez ironique que dans le film Barbie, notre cher Ryan Gosling a été nominé aux Oscars comme meilleur acteur de second rôle, alors que Margot Robbie... Actrice principale.
Retour à la réalité.
Rien du tout.
Peut-être qu'elle jouait mal aussi.
Ouais, ben pour avoir vu le film, je veux dire, je la trouvais aussi bonne que Ryan. Non, mais tu sais, ça, c'est le paradoxe, c'est un peu comme si on donnait les 3 étoiles du match à la Zamboni de l'équipe montréalaise de hockey pour avoir fait une belle glace, bien lisse, sans jamais donner de crédit aux joueuses qui ont mis la poque dans le net. Ça marche pas, là.
Non.
D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi les Oscars, le beau Ken n'est pas reparti avec un nouveau bibelot.
Heureusement. Bon,
ça aurait été ajouté l'insulte à la joie. Oh, et j'aurais changé ma chronique. Ça aurait été un petit peu plus virulent. Ensuite, mon deuxième point, c'est l'éducation de nos petits mousses. Et là, juste préciser que je parle de nos petits gars, hein, pas de la mousse qui va me servir à me faire une écharpe.
En effet, on en revient au thème
voilà.
principal.
Toujours à l'écharpe. Non, mais tu sais, ça prend pas la tête à Bourassa pour savoir que plus tôt on les éduque, le plus rapide, ils font partie de la solution. Et quoi qu'une partie de l'éducation de nos jeunes se fait à l'école, entre une game de ballon-poire et des parties passées mal accordées, c'est avant tout aux parents de montrer l'exemple. Et j'ai bien dit aux parents, hein, au pluriel, pas juste maman, papa aussi. Et j'irais même surtout papa. Parce qu'il a été prouvé que les filles ont tendance à avoir des modèles plus féminins, tandis que les gars, des modèles masculins. Et si on fait l'erreur d'attendre que nos enfants soient rendus à arborer la moustache molle et l'acné à grandeur pour leur parler d'égalité et de féminisme, ben ça risque d'être un petit peu plus difficile à déconstruire. Fait que le plus tôt on le fait, le mieux. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, du côté des filles, c'est important de leur dire et de leur répéter qu'elles peuvent non seulement être fortes et indépendantes, qu'elles n'ont pas besoin d'un homme pour vivre, comme ça a longtemps malheureusement été le cas, et que c'est encore le cas dans certains pays, et surtout qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, tout ce que les garçons font, parce que des métiers genrés, ben ça n'existe plus vraiment.
Quoique,
mais je pense dans qu'on travaille tranquillement pour qu'il y en ait de moins en moins. Puis du côté des gars, ben il revient encore une fois aux parents d'implanter chez eux l'idée de la cause féministe. Moi, je me souviens, plus jeune, on n'en parlait pas vraiment. Je pense que j'ai quand même été bien éduqué avec des bonnes valeurs, mais ce n'était pas un sujet. Je pense que ça s'est fait de soi. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus important. Je veux dire, je pense que c'est un must. Il faut, absolument en parler. Puis le plus tôt ils sont conscients de l'importance du respect et du consentement, bien, le plus tôt ce sera acquis et partagé après ça dans leur cercle.
Et la société sera meilleure.
Voilà, et c'est ce qu'on veut au final. Et j'ajouterais à ça l'importance de vivre ses émotions, comme pleurer. Autant pour les gars que pour les filles, que pour les personnes non-binaires, que pour n'importe quel être humain. Tu sais, combien de fois on s'est fait dire en tant que petit gars, « Arrête de pleurer, t'es pas une fille-fille. » Comme si pleurer, c'est pas normal quand t'es un gars, que c'était un signe de faiblesse. J'ai-tu manqué l'info qui disait que les réactions physiologiques étaient genrées? Moi, là,
je crois que les larmes, c'est pas un truc de garçon. C'est pas quelque chose qui existe, en fait.
Non, mais non, je suis... Non, Charline! Heureusement que je suis là pour t'éduquer. Mais...
Et d'ailleurs, c'était le sujet de ta dernière chronique. Et tu nous as prouvé que les hommes étaient capables de pleurer.
Absolument, et qu'il fallait se montrer vulnérable pour être vrai. Ouais. En tout cas, moi, je pleure, puis pas mal à part de ça. D'ailleurs, le jour où Hydro fournit plus, pluguez-moi des turbines à la place des cernes, l'usine à larmes s'occupe de vous. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est l'importance de devenir un acteur de changement dans nos jobs respectifs. Tu sais, que tu sois emballeur au Maxi, PDG de Tupperware ou commis au Rigolfeur Saint-Jérôme, on a tous une voix et on devrait tout le temps se questionner sur ce qu'on pourrait faire pour rendre les choses égalitaires dans notre milieu. Puis là, je peux donner des exemples que pour mes jobs à moi, évidemment. Mais en tant qu'humoriste qui anime et produit des soirées d'humour, bien, il y a pas mal de choses que je fais pour tenter d'améliorer mon milieu. Je vous donne des petits exemples vite. Pour chacune de mes soirées, moi, je m'assure d'avoir un line-up paritaire. Donc, jamais plus d'hommes que de femmes. Je m'assure aussi d'avertir les humoristes que les propos sexistes, racistes, transphobes, homophobes ne seront pas tolérés. J'anime une fois par mois le Glou Comedy Show au bar Le Jockey, qui est une soirée 100% caritative au profit de SOS Violence Conjugale, où tous les dons qui sont amassés sont remis à l'association. D'ailleurs, ce n'est pas vendredi cette semaine, mais vendredi prochain au bar Le Jockey, si jamais c'est ça noté. Vous intéresse. Et moi, quand je joue sur une soirée qui n'est pas la mienne, mais quelque chose que j'ai commencé à faire, c'est de demander le line-up des humoristes sur la soirée pour m'assurer qu'on y trouve des femmes. Sinon, je refuse de jouer sur la soirée par manque de représentativité. Mm-hmm. Et je me dis que si on est plusieurs hommes humoristes à faire ça, bien, peut-être que les producteurs de soirées, les animateurs qui bookent, vont réaliser, OK, ouais, il y a peut-être quelque chose que je ne fais pas de correct.
Donc, c'est un engagement politique à travers ta carrière.
100%, mais 100%. Puis je pense que je fais de l'humour un petit peu pour ça, tu sais. Puis c'est la chance que j'ai d'avoir un micro en plus à la radio. Je pense qu'on a des messages à passer. Fait que si c'est des petites actions qui peuvent changer les choses, bien, tant mieux.
Et il y en a d'autres, des humoristes engagés. Est-ce que c'est quelque chose que tu repères dans ton milieu?
Oui, bien, en fait, je pense qu'ils se ressemblent, s'assemblent un petit peu. Là. Moi, j'ai une soirée, notamment au Social Comedy Club au bar Le Social à Verdun. Je suis avec deux filles qui se disent assez féministes, merci. Puis le line-up, c'est généralement même plus de femmes que d'hommes. On se dit une soirée justement féministe où faut faire attention aux propos qu'on va dire. Donc oui, j'ai l'impression que je fais partie de la vague.
Très bien.
Et finalement, et c'est quelque chose que l'homme avec un tout petit H a de la croûte de miche campagnarde à manger, il faut qu'on soit non seulement alliés, mais qu'on participe activement à la déconstruction de la masculinité toxique.
Redis-le.
Ouais, je sais pas pourquoi j'ai vraiment découpé la déconstruction de la masculinité toxique.
C'est un long mot, ouais.
Voilà, c'est un mot, en fait, c'est ça. Et pour faire ça, ben, on n'a pas le choix, en tant qu'homme, de relever les fois où on est témoin de comportements et commentaires déplacés, puis de porter action. Puis croyez-moi, plus on le fait, plus ça devient de la petite bière. Puis là, je ne sais pas si quelque chose, la petite bière, c'est une expression française ou si c'est compris par les Québécois. Mais bref, de plus en plus on le fait, le plus c'est facile. OK? Vous
popez
pas une... Ouais, c'est ça. Vous popez pas une bière à 10h le matin. Je vous en prie. Parce que c'est un peu niaiseux, mais si personne dit à Kevin que les mimes qu'il partage à ses chums sur Instagram sont sexistes, bien, il va continuer à en poster. Si par contre... tu lui dis que ce qu'il partage est dégradant et abject, bien, non seulement il va apprendre des nouveaux mots de vocabulaire, mais probablement que la prochaine fois qu'il ira faire un numéro 2, bien, il se demandera si les mimes qu'il partage sont adéquats. Et un autre exemple, moi, ça fait quelques années, je joue au hockey depuis 25 ans, puis ça fait quelques années que j'ai plus peur de lâcher des... Hey, Tremblay, c'est ordinaire, comme call ça. Quand même, mes coéquipiers lâchent un petit call déplacé à la préposée qui vance à la batte 50 après la game de hockey. Puis il y en a des calls comme ça, là.
Ça existe.
Ça existe, malheureusement, beaucoup plus qu'on ne le pense. Parce que oui, sur le coup, ça crée un fret. Okay? Mais si ça prend une frette, une bière, autour d'un fret pour faire avancer les choses all-in sur les frets.
Merci pour ce magnifique jeu de mots.
Quasiment poétique, c'était super.
Et on en revient toujours à la bière, je remarque.
Et on en revient toujours à la bière, absolument. Puis anyway, tu sais, les frettes, quand t'es humoriste, t'es habitué à tester des jokes puis à ce que ça crée. Des petits silences malaisants, des petits frettes, fait que ça me dérange pas.
D'ailleurs, on peut laisser un petit silence.
Oui, voilà.
Merci Thibault.
Ben, ça me fait plaisir. Et juste pour conclure, ben, je finirais en fait en encourageant tous les hommes qui écoutent à poser des gestes et surtout à en faire une habitude, donc prendre conscience de nos privilèges, un petit peu comme je disais, se remettre en question, dénoncer les comportements sexistes à la job, dans la chambre de hockey, dans notre famille. Toutes les raisons sont bonnes pour participer à la lutte pour l'égalité des genres. Et je finirais en vous disant, en vous rappelant que le changement d'heure, ça date des années 70.
Merci Thibault pour ces enseignements, pour cette réflexion. On te retrouve dans 2 semaines pour un autre grand sujet philosophico-politique, sociétal, comme tu les aimes.
Voilà.
Merci beaucoup et puis bonne journée.
Mais ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bye bye.
On continue sur CIBL avec la chronique Outils de paix de Élise Dagenais. C'est au tour de notre chroniqueuse Élise Dagenais, coordinatrice d'Outils de paix, un réseau d'organismes qui promouvoit la non-violence. Bonjour Élise.
Bonjour.
À noter que juste avant, on écoutait Maud Evelyne avec les Merles. Et cette semaine, Élise, tu nous parles d'éducation anti-oppressive et de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité.
Oui, exactement. Ça va faire un bon suivi avec la chronique précédente. Donc, je vais introduire l'organisme, parler d'approche anti-oppressive, puis aussi ça va me permettre de parler un peu d'inquiétude qu'on a au réseau par rapport au contexte social actuel.
Alors, on commence à la base. Qu'est-ce que l'éducation anti-oppressive?
Oui, donc c'est l'ensemble des animations qui servent, si on est ambitieux, à éliminer les oppressions, c'est ce qu'on voudrait, mais au moins à réduire. Puis quand on parle d'oppression, mais c'est l'ensemble des discriminations et des exclusions qui sont faites envers certaines personnes ou des groupes de personnes. Puis donc le but, c'est d'amener les personnes à comprendre leur responsabilité dans l'existence des oppressions. Aussi, donc, la responsabilisation se fait par des amener à se questionner sur leur comportement, leurs pensées, puis aussi à réfléchir sur leur pouvoir d'agir. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour réduire ces oppressions?
Et que fait l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité que tu as choisi pour illustrer cette cause-là?
Oui, donc c'est un organisme d'éducation qui fait de la sensibilisation à la diversité. Là, ils portent bien leur nom, de la diversité au sens large. Donc, on parle de différences culturelles, d'orientation sexuelle, de diversité de genre, etc. Donc, le but, c'est de faire de la prévention auprès des jeunes et depuis peu auprès des adultes pour voir, diminuer les comportements oppressifs. Donc, ils sont présents dans les écoles primaires à partir de la 4e année jusqu'au secondaire 5. Puis aussi, bon, c'est ça, depuis peu, ils font de la prévention dans les milieux de travail. C'est ça. Donc, les mêmes ateliers sont adaptés pour la clientèle adulte. Vous pouvez voir toute leur programmation sur leur site Internet, ensemble-rd.com. Mm-hmm. Ils ont aussi un programme qui s'appelle le programme Empreinte, qui sert à faire des initiatives avec les jeunes. Donc, c'est des mobilisations qui sont faites avec les jeunes tout au long de l'année mm-hmm. scolaire. Donc, c'est sur des sujets qui intéressent les jeunes.
Et alors, justement. Comment se traduit l'éducation anti-oppressive par l'organisme? Comment elle arrive à mettre ça en place?
Oui, donc l'ensemble de leur programme d'atelier permet de reconnaître, prévenir et agir sur les oppressions. Donc, ça les amène l'audience à questionner leur comportement pour ne pas reproduire les comportements qui sont préjudiciables, mm-hmm. Mais aussi agir en tant que témoin actif, donc de dénoncer ce qui fonctionne pas, puis introduire aussi à se mobiliser concrètement. Donc, les formateurs, formatrices offrent un espace pour apprendre et désapprendre, changer les mentalités, déconstruire des préjugés, favoriser l'existence de milieux sécuritaires pour les jeunes. Et donc, ils vont aussi favoriser l'implication maximale des jeunes, de leur audience dans l'atelier. Donc, ils vont avoir des outils interactifs, des quiz, des questions ouvertes. Ils vont vraiment essayer de coopérer avec les jeunes. Mm-hmm. Puis aussi, c'est l'attitude des formateurs, formatrices. Comme beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu communautaire, ils vont incarner les valeurs d'ouverture, essayer d'avoir un dialogue ouvert. Mais aussi de faire le travail avec empathie. Ils vont utiliser un langage inclusif, puis ils vont vraiment favoriser une participation équitable en toutes mm-hmm. les jeunes.
Et alors, comment les formateurs, formatrices reçoivent des commentaires qui, parfois, peuvent être confrontants, irrespectueux de la part des élèves eux-mêmes?
Oui, évidemment, c'est assez difficilement vécu. Donc, c'est sûr que la confrontation d'idées, ça fait partie du contrat. Donc, on ne peut pas faire de la prévention sans devoir d'opposition qui se fait. Un peu de résistance, c'est quand même normal. Mais depuis la pandémie, évidemment, c'est encore une rupture dans le temps. C'est les commentaires, l'opposition est vraiment plus importante. Donc, des fois, il va y avoir vraiment une transformation, il va y avoir un peu plus d'opposition, vraiment une fermeture de la part des jeunes, mais aussi des valeurs, ils vont montrer plus des valeurs conservatrices, beaucoup moins d'ouverture envers les autres. C'est sûr qu'il y en a qui se sentent dépassés. Je suis un peu mêlée dans mes idées. Et aussi, ce qu'ils remarquent, c'est qu'il y a une fermeture de la part des enseignants et enseignantes. Donc, ils se sentent un peu rentrés dedans. Il y a beaucoup de fatigue et d'épuisement. Puis, il faut aussi noter que, comme dans beaucoup de cas dans le milieu communautaire, les personnes qui sont impliquées, qui décident de travailler, c'est qu'ils se sentent personnellement mm-hmm. concernés. Donc, s'ils entendent une personne trans qui va travailler là, qui entend des commentaires transphobes, va s'en sentir vraiment attaqué dans son identité professionnelle, mais aussi dans son identité personnelle. Puis ça devient vraiment difficile. Puis les conflits de valeurs avec les enseignants et enseignantes amènent un énorme découragement parce que ça limite la portée des mmh. ateliers en classe, parce que ça vient à mélanger les élèves, puis même à les mettre comme en conflit de loyauté. Puis ça, évidemment, c'est pas... ils ont quand même des bonnes expériences, c'est vraiment une tendance qui est de plus en plus forte, puis pas juste chez Ensemble, c'est dans l'ensemble des organismes qui travaillent avec les jeunes.
Et ça, depuis la pandémie?
Oui, il y a vraiment une rupture qui s'est faite à ce moment-là, mais il faut aussi comprendre que les écoles ne travaillent pas... c'est pas un... ils sont pas en vase clos, donc c'est ce qu'on remarque dans l'ensemble de la société. Donc, on remarque qu'il y a une polarisation, des clivages, un retour au conservatisme, mais ça se voit aussi dans les écoles. Donc, on voit, ce qu'on remet en question, c'est l'importance des réseaux sociaux chez les jeunes, mais aussi le fait qu'il y a, on n'a plus accès aux périodiques, aux journaux via les médias sociaux, donc ça limite les sources d'informations fiables. Puis ce qu'on remarque, c'est que toute la montée des idées masculinistes dans les réseaux sociaux, donc il y a beaucoup d'influenceurs, dont je préfère pas dire le nom pour pas leur faire de publicité, mais ça a une influence chez les jeunes. La guerre au Proche-Orient, c'est aussi un sujet extrêmement sensible parce que ça amène une grande souffrance chez une bonne partie de la population. Toutes les questions de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle dont on a parlé à l'automne dernier, aussi, ça se sent. Puis aussi, toutes les questions de nationalisme identitaire, ça se sent beaucoup dans les écoles. Mais aussi, en tout cas, dans le réseau Tipeee, en ce moment, c'est vraiment des sujets qui nous préoccupent parce que ça amène des grands clivages. Puis, nous, on veut travailler là-dessus.
Donc, le constat n'a pas l'air forcément très réjouissant. Quelles sont les pistes de solutions observées par votre réseau et puis par l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité?
Oui, mais si on parle au niveau du réseau, on voit la définition de polarisation. C'est la présence de désaccords normaux, mais pour lesquels le dialogue respectueux est impossible. Donc, nous, à Outipay, nos actions qu'on essaie de mettre en place, mais c'est surtout pour favoriser le dialogue, puis surtout outiller les gens à avoir un dialogue respectueux. Pour les formateurs, formatrices, ils gardent leur posture de dialogue avec les jeunes. Ça doit demander un extrême maîtrise de soi-même puis des outils d'éducation. Puis de répondre aux besoins de sensibilisation ici et maintenant. Donc, ils vont parfois sur le fly, j'ai juste ça en tête, de changer l'atelier pour avoir parler plus d'un sujet qui va être pertinent pour la classe. Mais aussi, on se questionne beaucoup par rapport à comment intervenir sur l'ensemble de l'environnement des jeunes. Donc, sur les enseignants, les parents, on essaie de les rejoindre puis de faire des formations. Ils essaient de créer des formations directement pour eux. Puis aussi, c'est des solutions un peu plus macro-sociologiques, donc plus globales. C'est de faire en sorte que les gens aient le temps de s'informer, donc de sortir du mode survie. Les conditions de vie matérielles sont de plus en plus difficiles avec l'inflation. Donc, c'est de militer, de faire entendre les voix pour que tout le monde ait accès à des services puis à des conditions de vie qui leur permettent de réfléchir à ces questions-là. Puis aussi, c'est d'intervenir au niveau des médias, de laisser la diversité de discours, aussi des discours progressifs, de leur laisser de l'espace. Au niveau du réseau, Outipay, on pense de supporter les revendications au niveau des mesures sociales, quoique ce n'est pas dans notre mission, mais c'est cohérent, puis de créer des espaces de dialogue. Donc, par exemple, nous, pour ce printemps, on pense faire des rencontres citoyennes pour parler de l'antiracisme dans le contexte de la guerre au Proche-Orient, mais c'est vraiment pour permettre le dialogue puis de répondre à la souffrance des gens pour qu'ils puissent discuter. Puis aussi à réfléchir à comment aller rejoindre les personnes qui ne sont pas déjà sensibilisées, donc d'avoir accès à des nouveaux publics.
Très bien. Voilà. Merci beaucoup de clôturer cette émission qui s'est finalement portée sur le thème de la Journée internationale des droits des femmes. Donc la chronique était dans le thème. Merci beaucoup Élise. On se retrouve le mois prochain pour un autre sujet.
Merci.
On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Restez avec nous. Pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités, nos chroniqueurs, chroniqueuses du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc et Wilfried Edzoa pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, on reçoit un bibliothécaire de la BANQ, mais aussi notre chroniqueuse Louise Anneau pour une revue de l'actualité culturelle. Restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. Et puis n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes et sur notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Éco-Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. La promotion de la langue française a toujours été une préoccupation à Éco-Montréal. C'est pourquoi le journal a lancé le concours « Le français, la langue qu'on aime » en collaboration avec le ministère de la langue française et le CSSDM pour promouvoir le français auprès d'élèves de 3e secondaire en leur permettant de s'exprimer sur le sujet. Les trois finalistes verront leur texte publié dans le journal. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
Découvrez les pensées d'un Algérien, Méditerranéen, Africain, Russe, rappeur, nouveau papa et nouvel arrivant au Canada grâce à Anis Bourbier, dit Bourbia. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Je partage mes tranches de vie, je vous embarque dans ma douce schizophrénie sur un fond de musique hip-hop. Le Père du Printemps, c'est une heure ensemble pour célébrer l'espoir d'un printemps chaque mardi de 19h à 20h sur CIBL 101.5.
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache Tatoune. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoune, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
Aïe, une maudite!
Tu viens-tu te foncer dans le porte-patio où il était?
Mais non!
Voyons, je t'ai vu.
C'est mon émission, vous commencez.
Voyons donc, Gaétan, c'est un annonce, c'est le mercredi...
Les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité, mercredi 17h à CIBL.
CIBL 105, Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, c'est parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.